Alors, amis, bonsoir. Eh bien, ce soir, nous nous retrouvons pour une nouvelle année d'études de la théosophie. Alors, avant d'écouter la conférence sur la théosophie et la vie quotidienne, nous allons faire une lecture tirée du cahier théosophique numéro 2, Méditation sur le sentier du vrai théosophe. Alors, dans toute la nature, nous ne pouvons trouver aucun exemple où un effort quelconque ne soit pas nécessaire. Nous pouvons constater qu'il y a toujours un résultat naturel à la suite d'un tel effort. Celui qui veut vraiment vivre la vie ou trouver la sagesse ne peut le faire que par un effort soutenu. Si un homme se met à étudier et apprend à percer un peu le voile, ou bien s'il a trouvé en lui-même quelque chose qui dépasse en grandeur son soi extérieur, cela ne l'autorise nullement à s'installer dans l'oisiveté ou à s'isoler du contact du monde. Ce n'est pas parce qu'il aperçoit au loin les lueurs de la lumière qu'il peut dire à son semblable « Je suis plus sain que toi » ou s'envelopper du manteau de la solitude. Chacun de nous est ici pour une bonne et sage raison. Si nous découvrons partiellement le pourquoi de notre présence sur Terre, nous avons dans ce cas d'autant plus de raisons de chercher dans la vie, par un contact intelligent avec elle, à en élucider plus complètement le problème. Ce n'est pas tellement l'étude de nous-mêmes que la préoccupation des autres qui ouvre cette porte. Il n'y a pas d'oisiveté pour le mystique. Dans sa vie journalière, il peut lui arriver d'avoir à affronter les plus âpres et les plus dures des tâches et des épreuves du monde, et cependant, il va son chemin, le sourire aux lèvres et la joie au cœur. Il ne devient pas sensible au point de ne pouvoir supporter de s'associer avec ses semblables, ni si extrêmement spirituel qu'il en oublie qu'un autre est peut-être en train de mourir de faim. Si le devoir devient pénible ou si vous tombez au bord du chemin, ne soyez pas découragé, effrayé ou fatigué du monde. Souvenez-vous de ces paroles. Tu peux chercher le silence dans le tumulte, la solitude dans la compagnie des hommes, la lumière dans les ténèbres, l'oubli dans les contraintes, l'énergie dans le découragement, le courage dans la peur, la résistance dans la tentation, la paix dans la guerre et la quiétude dans les tribulations. Place maintenant à la conférence.
Alors amis, il faut comprendre que le caractère prédominant de l'homme, c'est précisément le fait qu'il est doué de conscience réfléchie par rapport à tous les autres règnes dits inférieurs de la nature. Et ce caractère fait de lui un penseur qui a besoin de savoir de connaître son milieu, par exemple, de savoir qui il est, où il va, quels sont ses pouvoirs, ses potentialités. Donc il a besoin de comprendre tout ça. S'il étudie un petit peu l'histoire de l'humanité, de la Terre, en tout cas ce qu'il croit savoir, il va très vite se rendre compte qu'il est en évolution. Et de même que tous les éléments des autres règnes sont aussi en évolution, et ceci sans science à l'appui. À partir de là, eh bien, il est très facile d'imaginer que depuis que l'univers existe, il y a forcément des hiérarchies d'êtres bien supérieures à l'humanité. De même qu'il existe certainement des hommes qui sont beaucoup plus en avance que nous-mêmes, et puis d'autres un petit peu plus en retard. Et ceci, eh bien justement, parce que le corollaire de la conscience réfléchie, c'est précisément le libre arbitre. Donc on peut faire l'école buissonnière, ou au contraire, on peut se décider de se prendre en main et d'avancer un peu plus vite sur le chemin. Et la théosophie nous dit effectivement qu'il existe des hiérarchies bien supérieures à l'humanité, des hiérarchies hautement spirituelles. Dans certaines traditions, il est parlé d'anges, d'archanges, de Manasaputra, de Dhyani Buddha. Et effectivement, il y a aussi des êtres dans notre humanité qui ont un éveil bien supérieur au commun des mortels. Et on a l'exemple, par exemple, de Bouddha, de Krishna, de Confucius, Zoroastre, Jésus, bien évidemment, et bien d'autres plus ou moins connus, et d'autres certainement totalement inconnus. Et toute la connaissance qui a été mise en lumière par ces pères spirituels ou par ces frères de la nature, eh bien, elle a toujours été consignée et maintenue disponible dans l'humanité pour les êtres qui s'interrogeaient, se posaient des questions, pour les êtres dont la maturité intérieure faisait qu'ils étaient capables de les saisir et puis de les assimiler aussi. Et donc, l'ensemble de cette connaissance, comme il a été dit un petit peu dans l'exposé avant la conférence, eh bien, l'ensemble de cette connaissance, c'est ce qu'on va appeler la théosophie. Alors, théo, comme on a dit tout à l'heure, l'étymologie est grecque, ça renvoie à Dieu, mais dans le sens nature suprême, le divin, si vous voulez. Après, sophia, la sagesse. Dans d'autres traditions, elle porte un autre nom, mais peu importe. Peu importe le nom qui est là, l'important c'est que les idées sont là derrière, des idées qui vont exprimer tout ce qu'est l'univers avec sa face cachée, qui va expliquer tout, les lois universelles. Toute cette connaissance, cette gnose, est là disponible dans l'humanité et c'est ce qui est important. Et il faut savoir que ponctuellement, quand l'humanité en a vraiment besoin, eh bien, il va s'incarner un grand instructeur dans une civilisation donnée qui va restaurer les vérités qui avaient été déjà données antérieurement. Parce qu'avec le temps, eh bien, on va les interpréter un petit peu comme on a envie, il y a des superstitions qui vont se greffer dessus, on va dogmatiser, et du coup, il faut rééclaircir tout ça, redonner les vérités intactes pour que l'homme puisse les comprendre, avoir vraiment à disposition. Parce que l'homme a vraiment besoin de connaître ses idées pour se prendre en main, pour décider de son avenir et pour avancer un peu plus vite sur le chemin de l'évolution. Alors, en fait, ces instructeurs, eh bien, en général, ils vont donner les idées, mais d'une façon pas aussi claire qu'on aurait aimé, parce qu'ils vont parler sous forme de parabole ou d'allégorie, en fait, parce qu'ils vont s'adresser aussi bien à leurs disciples qu'à des êtres qui sont plus humbles, comme le commun des mortels, ou celui qui peut saisir juste un petit peu de la morale, ou des choses comme ça. Et donc, ils vont donner cet enseignement sous forme de parabole. Ça veut dire qu'elles ont plusieurs clés d'interprétation. Et l'homme, en général, eh bien, il a tendance à tout matérialiser, parce que c'est la clé de l'humanité d'aujourd'hui. On vit dans ce monde matériel, donc c'est plus facile de tout expliquer à partir du point de vue de la matière. Et c'est ainsi qu'il a bien évidemment matérialisé cette idée que l'on retrouve dans toutes les traditions anciennes de cette réalité absolue qui précède toute manifestation qui n'est jamais née, qui est éternelle, qui est à la racine de tout ce qui va apparaître, qui est la cause sans cause de tout l'univers manifesté. Et donc, le monothéiste, avec sa façon réductrice de voir les choses, eh bien, il en a fait le Dieu tout-puissant qui va créer le monde à partir de rien, donc d'une façon tout à fait miraculeuse, et qui va décider du sort des hommes, etc., d'une façon arbitraire. Et donc, en fait, si on reprend par exemple les textes hébraïques, il sera parlé d'Elohim qui va créer le monde. Mais Elohim, en fait, c'est un pluriel d'un nom grec qui est Eloah. Et Eloah, en fait, ça correspond, Eloah au pluriel, donc Elohim, eh bien, correspondent en fait à des hiérarchies de créateurs qui vont être actifs au commencement de la manifestation et qui vont remodeler cet univers. En fait, avant eux, il y aura des hiérarchies encore plus élevées qui font partie du mental, du mental universel, qui correspondent à ce qu'on pourrait appeler les architectes du monde. Et là, ce sont les créateurs. Et donc, en fait, ce sont déjà des hiérarchies déjà un peu plus inférieures. Et il faut comprendre que un univers donc va émerger, il va apparaître. On reviendra là-dessus après, mais il va se déployer et toutes les hiérarchies vont prendre une place et une fonction dans cet univers compte tenu de son éveil précédent. Et donc, quand il se sera complètement épanoui, il va se réduire, se rétracter, se subtiliser pour retourner dans sa source, dans la source, si vous voulez. Et en fait, et ceci de façon ponctuelle. Et en fait, il faut voir que la loi des cycles, eh bien, la loi des cycles, c'est une loi universelle, universelle qui est partout à l'œuvre dans la nature. Elle correspond à l'activité, le repos, la période d'activité, la période de repos, donc, c'est-à-dire la veille, le sommeil, mais aussi à le temps d'une existence, la mort, la vie objective, la vie subjective, si on se place du point de vue de l'homme incarné. Donc, cette loi est complètement universelle. Alors, pour en revenir à cette création, il faut comprendre qu'il y a effectivement donc, cet aspect absolu dont on a parlé, qu'on peut pas dire grand-chose dessus parce que c'est une réalité tellement, abstraite. On pourrait dire que c'est le potentiel de tout ce qui est, de tout ce qui fut et de tout ce qui sera jamais. Et à partir de là, il faut savoir qu'il y a ce qu'on va appeler le germe. Alors le germe, on peut imaginer que c'est la lumière synthétisée de tout ce qui a pu exister depuis toujours, depuis l'éternité. Puisque dans la durée éternelle, un univers va naître et puis il va mourir, et c'est là que la notion de temps apparaît. Mais l'éternité, c'est un présent éternel. Et cette synthèse, elle est en fait le résultat de programmes de mémoire de tout ce qui s'est construit auparavant, et notamment le dernier univers qui a été le père, pour ainsi dire, de celui qui est en train de se déployer aujourd'hui. Et quand cet univers va retourner à son homogénéité, eh bien, il va en résulter une synthèse, un fruit, une lumière qui va s'agréger au germe, à l'autre germe, et donner un nouveau germe, pour ainsi dire. Alors, on est obligé de prendre des images, parce que pour parler de ces choses qui sont tellement abstraites, on est obligé quand même de se servir un peu de symboles pour essayer de comprendre les choses. Alors, il faut bien comprendre que rien n'arrive à partir de rien. En fait, tout a une cause jusqu'à la cause sans cause, dont on a parlé tout à l'heure. Mais à partir du moment où l'univers se déploie, il y a un enchaînement de causes et d'effets, et c'est la fameuse loi de karma qui est... on ne peut pas la séparer de la loi des cycles, c'est la loi des cycles elle-même aussi, cette loi de karma. Il faut bien comprendre les choses. Alors, revenons à ce germe, qui est éternel aussi, on pourrait dire que c'est la nature essentielle, c'est notre nature essentielle, c'est la source duquel on a émané, on est comme un rayon de cette source. Et donc, on peut dire que ce germe, on va l'appeler la monade divine, eh bien, quand elle va donner lieu à la manifestation, elle va se diffracter en des myriades de monades, entre guillemets. Mais pour arriver à la monade humaine, qui est notre monade à nous, eh bien, il faut savoir qu'elle sera passée par l'expérience de toutes les formes élémentales, minérales, végétales, animales, jusqu'à l'homme. Et c'est là qu'elle est complètement individualisée avec ce fameux pouvoir de soi-conscience ou conscience réfléchie. Et à partir de là, cette monade devient un ego, ce qu'on appelle un ego. Et cet ego, eh bien, c'est lui qui devra prendre sa destinée en main pour éveiller toutes les possibilités, toutes les potentialités qu'il y a en lui, et pour devenir ce qu'on appelle un Bouddha, un Christos, suivant la tradition dans laquelle on se place. Et la théosophie, elle va nous parler de Mahatma. Mahatma, c'est un nom sanskrit qui veut dire « grande âme ». Ça veut dire que le rayon, à partir de ce germe, eh bien, il s'est dilaté jusqu'au soleil, au cœur de la nature. Il s'est dilaté vraiment pour se fondre dans le soleil. Et là, bien évidemment, eh bien, l'individu qui arrive à cette limite, entre guillemets, eh bien, il obtient évidemment l'omniscience, l'omnipotence, etc. Alors, il faut savoir que la théosophie va nous donner comme ça un ensemble d'idées, de vérités, que donc on a vraiment besoin de comprendre, de connaître. L'homme d'aujourd'hui, il a besoin de savoir ça, de connaître la réincarnation, la loi de karma, là où il va, sa conscience, etc. Et donc, à partir de là, la théosophie va nous donner ses idées, mais ces idées qui viennent précisément de ces aînés de la nature qui vont nous guider, qui vont baliser la route, qui nous proposent d'étudier ça pour qu'on puisse développer en nous-mêmes ces sens que nous avons, ces sens intérieurs qui vont nous permettre d'entrer dans la connaissance, parce que la connaissance, nous la portons chacun en nous-mêmes. Elle fait partie de notre nature de laquelle on a rayonné. Donc, toutes ces idées sont proposées à notre entendement, mais il ne faut pas croire une idée parce qu'une autorité reconnue comme telle y croit, mais il faut y croire parce qu'on l'a passé au crible de notre propre discernement et qu'il y a quelque chose en nous qui fait écho et qui dit « oui, c'est ça ». Parce que quand on a la chance d'avoir des idées qui sont des vérités qui sont authentiques, eh bien, qu'est-ce que ça va faire? On va réfléchir dessus, on va étudier. Et puis, avec notre sens intuitif, eh bien, quelque chose, il va y en résulter quelque chose, un écho. Avec notre intelligence, on va le mettre en forme. Et petit à petit, eh bien, toutes ces idées subtiles vont prendre une certaine forme pour nous. Elles vont devenir des réalités, et des réalités qui seront reconnues comme vraies. Alors, amis, maintenant, imaginons quelqu'un qui n'avait jamais entendu parler de la réincarnation, de la loi de karma, tout ça, et voilà qu'un jour, il prend connaissance de ses idées. Et tout d'un coup, ses idées répondent à une multitude de questions qui s'étaient posées, qui étaient restées jusque-là sans réponse. Alors, elles deviennent quelque chose de, pour lui, quelque chose de réel. Ça répond vraiment à des choses. Il sentait, il manquait un petit quelque chose pour comprendre. Et voilà qu'il adopte ses idées. Lui qui, jusqu'à maintenant, avait vécu une vie en croyant qu'il n'avait qu'une seule vie, bien sûr, que la mort, c'était la fin de tout, qu'il n'y avait pas de sens réel à sa vie. Lui qui regardait ces peuples, ces civilisations qui semblent à des années-lumière de sa façon de vivre, tout ça, ben peut-être qu'il a appartenu à ces peuples, à ces civilisations. Et puis ces hommes, ces étrangers, eh bien peut-être qu'un jour ils ont été son père, sa mère, ses frères, ses compagnons, ses amis, ou ils le deviendront dans le futur. Mais ça va changer des tas de choses pour lui. Ça va donner un sens nouveau à sa vie, une direction nouvelle. Mais aussi, amis, imaginons que cet homme qui a tout d'un coup une sorte d'illumination, eh bien, il se décide parce qu'il comprend que, par exemple, la nature essentielle ne fait pas partie de ce monde, hein, puisque la nature ultime, c'est cette source duquel on rayonne, eh bien, à ce moment-là, il va décider, ben, par exemple, de tout larguer, de tout laisser tomber, et puis d'aller s'enfermer dans une grotte ou un monastère, et puis pour essayer de retrouver cette source par la méditation, par une ascèse très très pointue. Mais si, par exemple, nous ne sommes jamais entraînés à courir, si aujourd'hui on s'inscrivait dans un marathon, eh bien ce serait très préjudiciable pour notre santé. On y laisserait sûrement des plumes. Donc il faut être raisonnable. Il faut essayer de comprendre les choses d'une façon beaucoup plus raisonnable. Parce qu'il faut savoir que si par exemple aujourd'hui, tel qu'on est actuellement, on se décide de se mettre à une ascèse très stricte que notre mental impose parce qu'il reconnaît que les choses sont vraies, sont comme ça, donc il faut s'imposer cette ascèse. Eh bien, il y a tout un aspect de notre nature qui est caché, qui est inconsciente et qui représente tous les désirs, toutes les aspirations qu'on a eues jusqu'à maintenant d'un point de vue personnel. Tout ça, eh bien, en fait, ne tarderait pas à se rebeller contre notre décision. Et puis finalement, eh bien, tout l'enthousiasme qu'on aurait eu par cette découverte qu'on aurait faite, eh bien, il va brûler comme un feu de paille et on sera complètement décontenancé et on sera abattu. Et il en résultera pas grand-chose. Donc on comprend bien qu'il va falloir voir les choses un petit peu d'une façon beaucoup plus sage, même si on découvre des tas de choses qui nous paraissent tout à fait vraies, on a un écho en nous, il va falloir voir les choses avec beaucoup plus de sagesse. Donc si on veut partir à la découverte des mondes intérieurs, parce que c'est un petit peu ça que nous montre la théosophie, hein, parce qu'il est dit, par exemple, sur le fronton du temple de Delphes, « Homme, connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux. » Et c'est absolument vrai. Mais enfin, avant de rentrer trop profondément, il faudra commencer à gratter un petit peu sur la superficie de notre nature pour voir ce qu'il y a derrière. Donc, il faut prendre conscience des choses. C'est que, tel que nous sommes constitués là maintenant, il y a en nous des tas d'habitudes qui sont bien ancrées et qui vont être ce qu'on appelle le pilote automatique. Et le pilote automatique va former quasiment presque toute notre personnalité. Et c'est elle qui mène le jeu. C'est elle qui prend les décisions quand on veut s'engager dans une action ou une autre. Mais il faut savoir que certaines décisions qui, à un moment donné, avaient leur légitimité, eh bien aujourd'hui, avec notre nouvelle vision des choses, eh bien, elles ne sont plus en conformité vraiment avec nos aspirations, avec notre vision beaucoup plus profonde des choses, du monde et de ce qu'on voudrait vivre finalement dans la vie. Il faut savoir que le noyau dur de cette pilote automatique, en fait, il est formé de ce qu'on pourrait appeler l'amour pour soi, l'amour égoïste pour soi, qui est fermé à tout amour vraiment fraternel, tout sentiment de fraternité, tout ça, parce que c'est quelque chose de très égoïste, très égocentrique, et donc ça va être difficile. Mais si nous avons un idéal qui dépasse précisément l'horizon limité d'une seule incarnation, et si nous nous tournons précisément vers notre nature supérieure, eh bien, nous serons éclairés justement pour avoir des actions qui sont en conformité avec notre vie de tous les jours et en conformité aussi avec nos aspirations. En sachant que notre sens éthique finira par s'aiguiser de plus en plus. Et forcément, ce qu'on fait, ce qu'on va faire maintenant, ça sera peut-être plus tout à fait ce qu'on fera dans 2, 3 ou 4 ans. Donc, en fait, on est donc bien lancé dans un mouvement d'évolution, mais c'est à chaque jour, peut-être, qu'il faut se remettre en question, à chaque instant, à chaque année, etc. Alors, donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dans l'humanité? On voit des guerres, des conflits, la misère partout. Et c'est dû à quoi? Ben, c'est dû au fait qu'il y a de l'égoïsme énormément dans tous les hommes. On est fait comme ça pour l'instant. Et donc, cet égoïsme est prépondérant dans l'humanité. Alors, quand on pense que le précepte commun quasiment de toutes les religions, c'est précisément l'amour et le respect de l'autre, eh bien, on se dit qu'on en est quand même beaucoup, on en est loin. Hein. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faudra essayer de changer un peu les choses. Et à partir du moment où, avec l'idée de karma et de réincarnation, eh bien, on sait très bien qu'il ne faut pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'ils nous fassent, mais d'une façon plus positive, qu'il faudrait faire aux autres précisément ce que l'on attendrait d'eux, eh bien là, déjà, on change un petit peu de registre. Alors donc, il faudrait prendre l'habitude d'essayer de se mettre à la place des autres pour essayer de sentir ce qu'ils ont besoin et ce qu'on pourrait leur apporter, tout en respectant leur libre arbitre, bien évidemment. Mais en fait, il faut savoir que la mise en pratique de la véritable fraternité universelle, eh bien, exige beaucoup plus que de donner aux autres simplement le petit bonheur qu'on aimerait pour soi. D'abord, on est tous différents. Ce qui nous plairait à nous, ça ne plaît pas forcément aux autres. Mais en fait, il faut bien comprendre que on est tous donc lancés dans ce vaste mouvement d'évolution. Et l'autre aussi est un être qui évolue. Il a ses entraves, ses difficultés dans la vie. Il a des choses à résoudre pour faire le pas suivant. Et donc, il faudrait essayer de sentir vraiment ce dont il a besoin. Et non pas répondre à sa nature égoïste, mais répondre à sa nature réelle. Essayer de comprendre, sentir ce qu'il a besoin pour lui apporter si possible, pour l'accompagner dans son effort, pour essayer de... d'être efficace à ses côtés. Et là, alors, dans ces cas-là, la théosophie, elle a beaucoup à nous dire. Parce que, si on comprend bien, eh bien, le divin, c'est le cœur de notre nature, on a dit, notre nature profonde. Mais c'est le cœur de la nature profonde de tout un chacun, et même de tout ce qui vit dans l'univers. Ça veut dire que le divin, il est immanent. Il n'est pas que transcendant, il est immanent dans la nature. Donc l'effort de celui qui voudrait aider son voisin, ses amis, et même celui qu'il rencontre dans la rue, comme ça, eh bien l'effort devrait viser un décloisonnement intérieur horizontal pour sentir les liens qui nous unissent avec les autres. Et là, en fait, ça va être une dilatation de la conscience. Et cette dilatation, c'est pas simplement vibrer au bonheur ou au malheur de l'autre, ce qui serait quand même mieux que l'indifférence de l'égoïste dans son petit bonheur personnel, ça c'est évident. Mais en fait, c'est une extension de la conscience. Donc ça va beaucoup plus loin. Et cette extension de la conscience va nous amener à ressentir vraiment les liens qui nous unissent les uns et les autres, comme si toutes les cloisons étaient abolies, comme s'il n'y avait plus de distance entre nous. Et en fait, ça va nous amener à déraciner ce qu'on appelle le sentiment de séparativité. Et dans les textes théosophiques, il en est parlé de ce sentiment de séparativité, qui est l'ivraie géante du moi personnel, eh bien cette ivraie géante, elle prend une multitude de formes et elle envahit de toutes les façons le champ du mental et du cœur. Alors il faut savoir que si, par exemple, on s'engage dans ce genre de discipline, où on commence à écouter le champ de la vie, on commence à vraiment écouter ce dont a besoin l'autre, eh bien si on commence à faire ce travail, eh bien, il faut savoir qu'il va y avoir une accélération du karma parce qu'on entre dans une vie où on commence à se prendre en main. Donc, il y a des tas de choses qui étaient restées en suspens pour nous et qui vont arriver. On peut dire qu'il y a une espèce d'accélération au niveau des événements qui arrivent, mais il nous semble que le plus, c'est qu'en fait, on sera beaucoup plus sensible à tout ce qui arrive. Donc, ce qui fait que notre conscience sera beaucoup plus aiguisée. Et donc, elle nous amènera à faire des changements en nous-mêmes. Hein, parce que quand on devient conscient de certaines choses, on ne peut pas laisser certaines choses telles qu'elles sont. On est bien obligé de changer. Alors, il faut savoir que la loi de karma, eh bien, il faut la considérer comme vraiment une juste disposition de la nature pour nous aider à nous guérir de maux dont nous-mêmes nous sommes responsables. En fait, tout ce qui peut arriver, ça va être des opportunités pour corriger nos erreurs, bien évidemment, et en même temps pour construire en nous-mêmes cet homme nouveau qui va être, au bout du compte, quand il sera revenu à sa source, complètement régénéré. Mais on n'en est pas, on n'en est encore pas là. Et donc, on va simplement commencer donc à s'occuper de la loi de karma, à voir ce que karma attend de nous. Et ce qui veut dire que quand il nous arrivera des choses un peu désagréables, eh bien, il faudra essayer d'abord de trouver les leçons qui sont derrière, les accepter, parce que c'est comme ça, et puis après, agir d'une façon très intelligente, parce que c'est comme ça que finalement, eh bien, on guérira beaucoup plus vite et de façon beaucoup plus durable. Pour continuer ce chemin de l'évolution. Et en même temps, donc, on va apprendre petit à petit à accepter karma tel qu'il est, endurer les douleurs et les maux inévitables, bien évidemment. Et puis, ça va nous amener aussi à prendre un petit peu de recul, à essayer de garder une certaine stabilité intérieure, de façon à ne pas s'impliquer complètement dans ce qui arrive, être complètement dépressif. Mais en même temps, si on fait ça, eh bien, il faudra aussi ne pas être complètement pris dans les joies qui nous arrivent, donc arriver à une certaine égalité d'âme. Mais donc, on ne s'identifie plus à l'acteur qui doit faire les choses, mais on essaye de s'identifier à la conscience qu'on est réellement, c'est-à-dire au témoin intérieur. Parce qu'il faut bien savoir que l'homme réel, c'est cet ego qui est en nous et qui va s'incarner de vie en vie. Il va s'habiller à chaque incarnation d'un nouveau corps, bien évidemment, mais d'une nouvelle personnalité. Mais il est là, il existe en nous et il y a une richesse dans cet ego. En fait, tous les pouvoirs, nous les tirons de cet ego, les pouvoirs d'amour, les pouvoirs d'intelligence, de création. Et en fait, nous tirons très peu de lui, parce qu'on pourrait en tirer beaucoup plus. Donc ça veut dire qu'il va falloir essayer de se tourner vers cette nature supérieure. Et là, eh bien, ça va s'agir d'une ouverture verticale cette fois-ci, parce qu'on va essayer de réaliser la transcendance verticale, en essayant d'entendre un petit peu cette voix qui parle sans bruit, en silence, la voix du silence, mais qui peut s'imposer d'une façon très volontaire. Ou alors on peut essayer d'en tirer un petit peu de la lumière du cœur profond de notre être. Donc il va falloir essayer de se tourner vers cette transcendance. Alors pour arriver à ça, bien évidemment, eh bien, il va falloir que la personnalité, l'homme psychique, devienne perméable à l'influence de cet ego. Et il faut savoir, par exemple, que déjà, quand on s'engage dans des idées, dans des actions purement altruistes, sans rien attendre pour soi, eh bien, à ce moment-là, elles sont de nature identique à la nature de l'ego. Et là, l'influence va passer. Ensuite, pour rendre notre aspect psychique complètement clair, pur, eh bien, il va falloir discipliner le mental et le cœur. Et en fait, il va falloir essayer de le purifier et en même temps de le pacifier. Hein, c'est que à ce prix que finalement on va commencer à saisir, on aura le véritable discernement parce que la lumière d'en haut va nous pénétrer et on va comprendre les choses, les situations. On va sentir la vie en nous, on va sentir ce que l'autre a besoin. Alors ensuite, la théosophie va nous dire, va nous conseiller en tout cas, que pour arriver à cet effort d'ouverture, il va falloir plusieurs choses. D'abord, la réflexion sérieuse sur toutes les idées qui nous ont été données par nos frères aînés, Donc, c'est ce qu'on a parlé, hein, c'est-à-dire que ça va nous permettre d'éveiller des sens en nous qui sont là, hein, mais qui ne sont pas encore actifs. Hein. Toute notre nature spirituelle, elle est en nous, mais elle est potentielle, elle est, comment dire, elle est non active. Elle est... Donc, il faut la réveiller quelque part. Hein. C'est tout le travail, d'ailleurs, qu'on aura à faire. Donc, il va falloir donc étudier tout ce que nous... ces instructeurs ont pu nous laisser comme héritage spirituel. Ensuite, il va falloir essayer d'être vigilant soi-même, hein, c'est comme on a dit. Alors donc, cette vigilance, elle passe par la purification du psychisme. Et qu'est-ce qui se passe dans notre psychisme avec le mental et le cœur? Eh bien, on a une multitude d'impulsions, des idées qui viennent, des pensées, des émotions, des sentiments. Eh bien là, il va falloir regarder ce qui se passe, c'est-à-dire on se regarde, pourquoi vient cette impulsion, pourquoi je pense à ça. Il va falloir essayer de remonter aux causes qui font qu'on a ce genre de pensée, on a ça, les remettre aussi à leur origine, c'est-à-dire à l'un ou l'autre des principes qu'on a dans notre nature. Et ça, on est beaucoup aidé par la théosophie qui nous parle de la constitution septuple de l'homme, et donc ça nous permettra de mieux comprendre les choses. Donc il va falloir bien avoir cette vigilance de façon à ce que progressivement on devienne maître de nos instruments. Ça se fera très progressivement, mais si on commence à se regarder, à regarder toutes nos impulsions intérieures, à ce moment-là, on commence à se prendre en main, vraiment. Et puis ensuite, il faudra installer, la théosophie nous recommande d'installer ce qu'on appelle l'examen de conscience. Donc, c'est là qu'à partir du moment où on a agi, les choses une fois faites, on ne peut pas aller revenir en arrière, mais par contre, on peut dire, la prochaine fois, je ferai comme ça ou comme ci. Et là, vraiment, on met une énergie qui va nous soutenir quand on sera dans une situation similaire et on aura des chances d'avancer là où on a décidé d'avancer. Ensuite, la théosophie va nous recommander la méditation. Et puis, elle va nous recommander aussi la préparation au sommeil. Donc, on va y revenir. Alors, la méditation, on nous dit, la méditation est l'inexprimable aspiration de l'homme intérieur cherchant de tout son être à sortir vers l'infini. Alors cette sortie vers l'infini, eh bien on comprend bien que ce n'est pas la fuite d'un être angoissé qui va chercher réconfort et consolation. Bien évidemment que non. Hein. En fait, cette sortie vers l'infini, c'est un changement radical d'état de conscience qui passe de la conscience limitée de l'homme à la conscience de l'océan sans borne du soi cosmique. En fait, la véritable méditation, c'est la démarche qui prépare à mourir à tout sentiment de séparativité, de façon à s'unir avec le soi suprême, on pourrait dire. Nous, on est un soi personnel, on peut devenir un soi plus individuel, hein, qui maîtrise toutes ses personnalités, et puis en même temps, on peut... après s'unir avec ce soi qui est le soi de toutes les créatures. Et là, ben dans ces cas-là, on réalise à la fois la transcendance verticale et la transcendance horizontale. Et c'est un être complètement nouveau qui peut faire ce genre d'expérience. Alors évidemment, ce n'est pas notre cas, nous, ça, soyons raisonnables. Mais la théosophie nous invite quand même à la méditation. Parce que cette méditation, elle va nous préparer à nous approcher de cette source, de notre source spirituelle. Et forcément, si on fait un pas en avant, il y a quelque chose qui répond dans notre nature. On sera différent quand on sera sorti de cette méditation, même si on a l'impression qu'il ne s'est rien passé. Et il faut savoir que si on s'engage comme ça ponctuellement dans la méditation et qu'on l'installe vraiment ponctuellement tous les jours ou enfin autant qu'on peut, eh bien on va créer en nous-mêmes une sorte de lieu d'asile, on peut dire une île sainte où on va être un petit peu protégé, ça va être une espèce de plateforme intérieure qui va nous permettre de vivre dans le monde, mais sans être soumis aux fluctuations du monde. On va être capable d'avoir beaucoup plus de recul. Et en même temps, cette plateforme, ce sera aussi une plateforme sacrée de laquelle on pourra tirer de l'inspiration de notre source inépuisable de sagesse qui est au fond de nous, hein, qui est dans notre nature. Donc c'est très important d'installer cette méditation, mais en sachant que dans la mesure où nous ne sommes pas des grands méditants et que nous n'allons pas arriver à cette méditation dont on parlait tout à l'heure, eh bien il faudra toujours, toujours repenser aux motifs qui nous animent pour engager cette méditation, pour engager ces disciplines dont on a parlé, pour que tout le bénéfice qu'on en tire, on le fasse profiter aux autres. Parce qu'on risque, si on fait certaines expériences plus ou moins enrichissantes, ne fût-ce que dans la méditation, eh bien on risque une exaltation du moi personnel. Donc ce n'est pas le but, hein, on l'a bien compris. Alors maintenant, nous allons parler de la préparation du sommeil, parce que si on étudie bien la théosophie, si on comprend bien les choses, comment nous sommes constitués, eh bien ça nous paraîtra assez évident de se lancer un petit peu dans cette discipline. Alors il faut savoir que toutes les nuits, quand nous nous endormons, eh bien notre conscience va se retrouver dans la sphère psychique, et puis ensuite elle va se retrouver dans un stade plus profond, duquel nous ne ramenons rien au stade actuel où nous en sommes, mais ce stade plus profond que nous appelons le sommeil sans rêve, eh bien c'est le stade où nous libérons notre ego. Et notre ego, là, va avoir sa vie sur ce, va vivre une vie à lui sur ce plan, le plan du sommeil sans rêve. Hein, c'est la salle de sagesse dont il est parlé dans La Voix du silence, par exemple. Alors, quand on se réveille, la conscience va faire le chemin inverse. Et là, dans la zone du rêve, eh bien, quelques expériences de l'ego vont peut-être prendre une certaine forme, mais dans cette sphère psychique que nous avons, elle est encombrée de mille choses, ce qui fait que ça va tout se mélanger. Et quand on va se réveiller, même si on pense tout de suite à quoi j'ai rêvé, est-ce qu'il y a eu une leçon que je peux tirer de mes rêves, eh bien, ça va être extrêmement difficile parce que ça va être déformé, ça va être chaotique, on ne va rien y comprendre. Ça veut dire qu'il faudrait essayer de préparer donc cette zone, enfin ce psychisme, le préparer pour la nuit. Et il faut savoir que la dernière pensée que nous avons avant de nous endormir, eh bien, prépare précisément la qualité du sommeil qu'on va avoir et surtout de l'expérience de l'ego. On pourra peut-être en ramener quelque chose. Par exemple, si on décide de réfléchir à une question spirituelle qui nous préoccupe, on a besoin d'une solution qu'on ne trouve pas, et bien là, on pense à ça, puis on s'endort, et peut-être et bien, quand on va se réveiller, il y a la solution qui va apparaître au réveil. Ou si elle n'apparaît pas au réveil tout de suite, elle peut venir comme une réminiscence dans la journée, par exemple. Alors il faut savoir que si on calme le mental, parce que si par exemple, après toute la journée qu'on a eu, les tensions avec les autres, etc., notre mental est préoccupé de plein de choses, de peur, de plein de choses qui sont sur le plan physique, des tensions qu'on a pu avoir avec les autres, de ce qu'on a désiré puis qu'on n'a pas eu, etc. Mais tout ça, c'est un amalgame qui va être là, présent au moment de s'endormir. Et on va peut-être penser à ça avant de s'endormir. Eh bien, ça, c'est complètement opposé à la vision réelle de l'ego. Ça veut dire que quand on y va revenir, là, c'est sûr que tout sera chaotique, on ne pourra rien saisir, même s'il y a quelques bribes de l'expérience de l'ego qui vont passer, on ne va rien retenir. Alors qu'il serait tellement important qu'aujourd'hui, maintenant, on puisse profiter de l'expérience de l'ego, si on pouvait en tirer quelques substances, parce qu'entre l'ego et nous-mêmes, il y a un lien profond, parce que c'est nous, mais nous, on est dans l'illusion de ce moi personnel séparé et on ne peut pas s'identifier à l'ego. Et on n'a pas d'ailleurs les moyens de le faire parce qu'il nous manque encore des niveaux d'éveil pour arriver à ça. Donc ça veut dire que si on arrive à calmer la sphère psychique avant de s'endormir et à l'accorder à la vibration spirituelle, eh bien, on va créer une sorte de pont entre l'ego l'ego réel et l'homme incarné que nous sommes. Et si nous reprenons tout de suite, au moment du réveil, cette même discipline, à ce moment-là, on crée aussi un pilier du pont. Et à un moment donné, eh bien, le pont va se créer complètement. Donc, vous voyez l'importance d'accorder le sommeil à une certaine vibration spirituelle pour pouvoir en récolter quelque chose. Alors, amis, pour conclure, la théosophie ne nous a pas été donnée comme ça pour satisfaire à notre mental ou à nos interrogations, nos curiosités. Non. En fait, c'est vraiment un fil d'Ariane qui va nous permettre de nous diriger dans la vie incarnée. Si, par exemple, on continue à être pris par une multitude de choses qui occupent notre mental et notre cœur, eh bien, on va, et qui concerne la vie incarnée, le plaisir des sens, etc., enfin, tout ce qu'elle peut nous offrir, eh bien, on va finir par toujours tourner dans une cage d'écureuil et on n'en sortira quasiment jamais. La théosophie nous invite à discipliner le cœur et le mental. De cette façon-là, on va pouvoir corriger les défauts de notre nature qu'on est capable de voir. On voit qu'on a des défauts, donc petit à petit, on finira par les régler, par arriver à ça. Mais en même temps, cette discipline, elle va nous armer, à nous rendre beaucoup plus forts pour nous occuper de nos devoirs de la vie de tous les jours. Hein. Et en sachant qu'à partir du moment où on essaie de se prendre en main, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On aura des pensées en disant, voilà, il faut faire comme ça, on va faire intervenir l'idée du beau, du bien, du juste, de l'amour, et on va essayer de les penser, comment on pourrait agir dans cette vie. Eh bien, dans ces cas-là, on va peupler la psychosphère de la Terre d'images tout à fait bénéfiques pour l'ensemble de l'humanité, en sachant que cette psychosphère, elle est complètement pollué par des idées de haine, de racisme, de violence, etc. Donc on a un travail à faire. À partir du moment où on se prend en main, comme on l'a dit, avec cette discipline du mental et du cœur, eh bien on aide collectivement l'humanité, même si on n'a pas de rapport avec personne, c'est simplement on travaille sur nous-mêmes. Donc c'est déjà un bon point. Alors il faut savoir aussi que notre devoir d'homme incarné, la nature nous a donné des dons que nous pouvons manifester, hein, les dons, on a le pouvoir créateur, on peut faire plein de choses, on a l'amour en soi, on a des mains pour travailler, pour aimer aussi. Et donc la nature nous a donné tout ça, c'est pour vraiment les mettre au service des autres, hein, c'est pas pour s'en servir que pour soi. Et donc, et si par exemple on pense qu'on aurait été mieux ailleurs pour faire certaines choses, il ne faut pas oublier que si on est né en Occident, ce n'est pas un hasard. C'est parce que c'est ici qu'on a les meilleures opportunités qui nous sont offertes, à condition de savoir en profiter, et des opportunités qui nous permettront aussi d'aider les autres. Parce qu'il faut savoir que le véritable théosophe, eh bien, il ne va pas partir dans tous les endroits du monde pour essayer de trouver quel est l'endroit le meilleur où il pourrait distribuer ses qualités, ses dons, faire profiter aux autres. Non, il accepte la vie telle qu'elle est, il accepte karma, ses conditions, il essaye de prendre du recul, il essaye aussi de faire en sorte que tous ses efforts, eh bien, il les abandonne, ce n'est pas pour des intérêts personnels. Parce qu'il faut savoir, comme il est dit dans la déclaration de la Loge Unie des Théosophes, que le véritable théosophe appartient à personne en particulier, mais il appartient à chacun et à tous. Alors voilà, amis.